France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Remonter aux sources du fleuve Romance. Il suffirait peut-être de croiser un homme étrange, de le suivre dans sa boutique du Paris populaire et de le regarder feuilleter ses dossiers. Cet homme étrange a la voix de l'un des criminels de L'Assassin habite au 21, celle du docteur Vorzet dans Le Corbeau, celle du baron Édouard dans Sylvie et le fantôme, celle d'un chauffeur de taxi dans Quai des Orfèvres, etc. Et pour cause, le rôle de ce brocanteur collectionneur de faits divers est interprété par Pierre Larquet. Et la fiction qui vient fut diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 3 janvier 1949. La fantasmagorie du crime. L'image choque peut-être un sol jonché de journaux.
Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française vous présente Germaine Montero, Pierre Larquet et Michel Vitold dans une émission de Armand Lanoux, prix populiste 1948. Le collectionneur de faits divers. À l'accordéon, Germaine Mordant.
J'ai connu un général russe qui collectionnait des boîtes d'allumettes vides. Un jeune homme qui possédait plus de 4000 cartes postales 1900. Un journaliste qui, pendant 40 années, recueillit dans les bureaux de poste les télégrammes oubliés par leur expéditeur. Le plus singulier était ainsi libellé. Destinataire illisible, à rang l'étape, stop. La raison est le droit pour deux grandeurs, homogène, réciproque, habituelle, stop. L'homme comme la femme est une robe de Nessus ou un masque volontaire, sinon séparation ou divorce. Stop. J'ai connu des collectionneurs de coquillages et des collectionneurs de coquilles typographiques et toutes sortes de gentils maniaques qui amassaient les affiches de corrida, les billets de métro, les soldats de plomb, les tickets de rationnement, les éventails, les poupées de soie, les couronnes de rangée, les boîtes à musique, les empreintes digitales, les pancartes publiques depuis appartements à louer. Jusqu'à « Il ne faut pas laisser les enfants jouer avec la serrure ». L'un d'eux avait reconstitué dans son appartement un édicule que l'empereur Vespasien voulut fixe et que Marcel Pagnol prétendit ambulant. Il en est d'autres qui font main basse sur les voiliers dans des bouteilles, les cordes de pendu, les chapeaux chinois, les tatouages, les graffitis, les boutons de nacre, les avertisseurs d'incendie et les porte-plumes d'os à gouttes de verre où s'immobilise un trocadéro rongé sur les bords par un arc-en-ciel. C'est en pensant à tous ces poètes du dimanche, à tous ces douaniers Rousseau de la paillette et de la pacotille, que j'ai songé à collectionner les collectionnaires. Et cette décision prise, je ne tardais pas à rencontrer le plus bizarre d'entre eux. L'homme tournait sa manivelle. C'était un soir près de Barbès. On aurait dit qu'il avait toute la nuit à moudre avec son moulin étoilé, ce vagabond sans âge. Autour de lui, des filles et des soldats s'arrêtaient.
Approchez, approchez! Ce ne sont pas des romances fabriquées par des compositeurs chômeurs des environs de la Porte Saint-Martin que je vous offre, moi! Mon répertoire est unique! C'est la vie même! Ma chanson, c'est le sang de la rue! Écoutez-la! Je vous parie que vous ne l'avez jamais entendu. 1000 balles de prime à celui qui reconnaît ma chanson. Merci, monsieur. Merci, militaire. Merci, madame. Écoutez, peuple de France, du royaume du Chili, peuple de Russie aussi, du Cap de Bonne-Espérance, le mémorable accident d'un crime très conséquent.
Et moi, je reconnus un célèbre complaint de Fualdès, l'une des plus pures de ces chansons de Carrefour qui célébraient les malheurs de Mandrin et de Cartouche, d'Orsini et de Tropman, de Bonnet et de Landru, de Violette Nozière et la dernière en date de Weidmann. Je ne voulus rien dire. J'étais ému et surpris. par cette voix monocorde, cette voix de juif errant. Une poésie tenace comme une malaria de faubourg montée des vers de Mirliton. Quelques sous-tombèrent encore dans la sébille qu'un singe pelait tenait entre ses dents. Le froid devenait plus vif. La chanson de la vie ne retenait pas les passants. Les filles suivies de leurs soldats rejoignirent les petits bars tièdes. Le militaire était la fille, ce que la hampe est au drapeau, disait Marc Orland. Hé, Plum, vous partez déjà? Je voudrais encore entendre vos chansons.
Je vois que monsieur est un amateur et j'ai peut-être d'autres choses à vous montrer. Tenez, venez donc avec moi, monsieur.
Nous étions maintenant à 200 mètres de Barbès, près du Château Rouge, rue des Poissonniers. Mon guide devait être brocanteur à ses heures perdues. Seul un inventaire d'huissier eût pu décrire sa boutique. Jumelles de nacre, portée de famille, machine à vapeur, perroquet empaillé, siphon, faune à pavillon, dessous plat musique, vase nègre, moule à pâtisserie, harmonica, tête de Pascal en plâtre. Non, j'y renonce. Une jeune femme qui nous avait pris pour des clients recula quand nous entrâmes visiblement déçus. Elle berça le singe dans ses bras.
Et enlevez donc le trombone qui est sur la chaise, monsieur. Asseyez-vous.
Merci, monsieur.
Alors, vous voulez le présent ou le passé?
Comment?
Oui, je suppose que vous ne m'avez pas suivi jusqu'ici simplement pour entendre les refrains faciles qui pleurent ou rient dans les carrefours. Hein, vous désirez aller plus loin, remonter aux sources du fleuve romance.
Exactement, monsieur. Bon,
alors sachez que je suis le collectionneur de faits divers. Et je vous demande si vous préférez ceux du présent ou ceux du passé. Je ne puis vous dire ce soir ceux de l'avenir.
Eh bien, disons un peu des deux.
Oh bon, comme il vous plaira. Une seconde seulement. Et voici les jolis drames de la vie.
Il écarta un mannequin de couturière et tira un album gonflé de coupures de journaux. Il mit ses lunettes. La jeune femme prit un accordéon qui flamboyait dans la pénombre.
Mon oncle a tout repeint, le buffet en fiche-pain, la cabane à lapin. Mon oncle a tout repeint, les meubles en retin, la huche à pain et la grande armoire en tapin.
Là, voilà, j'en ai une belle collection. Oh, pardonnez-la, monsieur, pardonnez-la. Mais non, les femmes ne savent guère s'intéresser aux choses sérieuses. Ah, voilà une chose sérieuse. Tenez, voyez, écoutez ça. En 1943, le procureur de Château-Thierry se rendit à Épieds, dans l'Aisne. Mm-hmm. Son inquiétude touchait à l'angoisse. Pendant toute une année, l'état civil de cette commune de 220 habitants n'avait enregistré aucun décès, aucun mariage, aucune naissance. C'était le pays où il ne se passait rien.
Depuis, tout est rentré dans l'ordre.
Mais pour que les hommes gardent le goût du pain, monsieur, il faut qu'il se passe quelque chose.
Oui, évidemment.
Hein, n'est-ce pas? Et qu'y a-t-il de plus pathétique qu'une mort violente? Et particulièrement une exécution capitale.
Et vous en avez là-dedans?
Mais bien sûr, monsieur, bien sûr, tout est là. Tout ce que vous appelez littérature, art, poésie, fantaisie, théâtre, imagination, sketch, vaudeville, les chansons, mais tout est dans le journal. Tenez, écoutez plutôt.
Oui.
Écoutez, Willy Francis, le nègre, avait tué une boutiquière. Il s'assit un jour sur la chaise électrique à New Liberia, dans la prison d'État de la Louisiane. Il se répétait sans interruption, Willy, tu vas quitter ce monde, Willy, tu vas quitter ce monde, Willy, tu vas quitter ce monde. Le courant passa, l'intensité fut insuffisante, il se réveilla. On lui demanda aussitôt ce qu'il avait ressenti. Oui. Ah oui, c'est la coutume. Willy, le noir, répondit. Ben, on a l'impression d'avoir du beurre de cacahuète froid dans la bouche et l'on voit une multitude de taches bleues, roses, vertes, comme les couleurs sur les plumes de la queue du coq.
C'est beau une queue de coq.
Oui, c'est beau. Willy avait eu sa chance. Un autre condamné, qui devait être exécuté en Amérique du Sud par guillotine, lui aussi eut la sienne.
Je vous écoute.
Tenez, écoutez donc. Une sommité médicale demanda qu'il fût soumis à une expérience psychologique. Oui. S'il survivait, la peine serait commuée. Ah, le marché fut accepté. Le professeur réveilla un matin le condamné avec l'apparat d'usage. On le conduisit à une guillotine qui faisait l'honneur
de notre commerce d'exportation. On le jeta sur la bascule, on lui passa la tête sous la lunette et on ouvrit sur sa nuque un robinet d'eau froide. Celui-là ne put jamais décrire ce qu'il avait ressenti. Il était mort sur le coup.
C'est le mot. Ayez pitié de moi. À tout le moins, s'il vous plaît, mes amis.
Oh non, écoute, je t'en prie, voyons. Alors, Rosa, voyons, alors, cesse de plaisanter. Qu'est-ce que monsieur va penser de nous? Mais personne ne doit rire du destin. Enfin, voyons. Oh, monsieur, en fait de destin, j'ai mieux. Oh, monsieur, j'ai beaucoup mieux. Écoutez donc ça. Un garçon boucher hongrois avait assassiné un journaliste. Il fut condamné à mort. On lui demanda ses dernières volontés. Il réfléchit et écrivit une supplique au directeur de la prison. C'était un assassin courtois. Il demandait en ultime faveur d'être présenté au bourreau avant l'exécution.
Dorothy Sayers a écrit « Il est heureux pour le fabricant de mystères que s'il n'y a jusqu'ici qu'un seul moyen de venir au monde, il existe une infinité de moyens d'en sortir. Votre collection me paraît illustrer cette maxime. »
N'est-ce pas? Oh, mais ça va même plus loin, quelquefois beaucoup plus loin. Tenez, oh, en voilà une que je connais par cœur.
Non.
Oui. Au cimetière de Lausanne, on procéda un jour à l'exhumation d'une femme. Elle avait été enterrée avec sa tête. Mais le corps était décapité quand on le tira du caveau. On fit une enquête, naturellement, et les journaux en parlèrent. Alors, un fonctionnaire de la ville révéla qu'il avait récemment acquis un beau crâne poli pour son bureau. C'était l'administrateur du cimetière de Lausanne lui-même qui le lui avait vendu. On trouva chez ce fonctionnaire une lettre d'un médecin de Zurich commandant à son fournisseur habituel un crâne avec toutes ses dents et bien conservé. Oh. Ah.
Le collectionneur de faits divers tourna vers moi ses yeux froids. La femme me sourit. Elle avait la peau blanche et les lèvres sanglantes.
La mort, l'amour. L'amour et la mort sont jumeaux. L'amour et la mort sont le cœur rouge et le pic noir de la loterie. Il n'y a pas de faits divers sans eux. Et c'est l'adultère, le concubinage, la prostitution. Mais silence, garce! Allons, silence! Je dis donc que c'est la démoralisation, la corruption, la superstition, la malédiction, la mythomanie, la kleptomanie et la nymphomanie, monsieur!
Et la plus belle des valses d'amour! Raconte-moi encore la plus belle des valses d'amour!
Oh, celle-là, monsieur, c'est une pièce choisie. Je l'appelle Les Polonais. En 1939, le Polonais Georges Sewitz demeurait à Breslau. Il épousa une Polonaise et partit seul pour Amsterdam. La guerre éclata avant son retour. Tandis que Georges Sewitz gagnait l'Amérique, sa femme était jetée dans un camp de concentration. Le père de la Polonaise, polonais également, subit le même sort. Alors, la Polonaise demanda le divorce dans le but de contracter avec un Allemand un mariage blanc. Ça fut fait du reste en accord avec Georges Sewitz.
Oui.
La Polonaise devint allemande. Mais il faut se méfier des mariages blancs. Oui, enfin bref, elle eut un enfant. Bientôt, le second mari fut tué. Et pendant ce temps, le père polonais de la nouvelle Allemande, rendu à la liberté par le sacrifice de son enfant, reprenait goût à la vie et épousait une Allemande de l'âge de sa fille. De son côté, en Amérique, le Polonais Georges Sewitz était devenu américain. Il participa au débarquement et retrouva sa femme divorcée, remariée et veuve à Heidelberg. En dépit du pseudo-mariage blanc, il décida de la réépouser. Alors attention, attention monsieur, c'est là que ça se complique.
Ah oui.
Il sollicita l'autorisation de convoler à nouveau avec son ex-femme. Malheureusement, la fraternisation était interdite. La situation était inextricable. Quand le père polonais mourut, la jeune Allemande qui l'avait épousée devenait veuve à son tour. Mais elle gardait sa nationalité polonaise.
Oh là là.
Et c'est là que l'amour intervint encore, monsieur. La petite Allemande devenue polonaise et le polonais devenu américain, oh, ses mères. Le polonais, en désespoir de cause, épousa sa belle-mère par alliance et devint le beau-père de sa première femme. Le couple est maintenant américain.
Aux quatre coins du lit,
L'homme m'avait conté l'anecdote des Polonais pour me divertir, j'en étais sûr. Pourtant, elle ne m'avait pas arraché le moindre sourire. Je le regardais feuilleter ses paperasses et la femme chantonnait toujours son répertoire absurde.
Ah, l'amour, monsieur, l'amour, l'amour, venez écouter. Un acteur adorait une jeune fille. Ils décidèrent de mourir ensemble car ils n'étaient pas libres de s'aimer. Non, l'acteur eut une idée merveilleuse. Très poétique, très théâtral, très idyllique, très cérébral. Ils se tiendraient l'un derrière l'autre et la même balle mettrait fin à leur jour. Ils s'habillèrent comme pour aller à l'opéra. Quand ils furent prêts, ils se regardèrent dans la glace de leur armoire. L'amant se plaça derrière sa maîtresse, posa le canon du revolver sur le cœur de la jeune fille, lui embrassa la nuque et tira.
C'était très beau.
Ah non, monsieur, non, ce ne fut pas beau. La jeune fille mourut sur le champ. Mais il n'eut même pas une égratignure et il ne put jamais prouver qu'il avait eu l'intention de se tuer.
Ah alors,
on le condamna à mort et on l'exécuta, seul, tout seul, un petit matin. Ah monsieur, vous goûtiez les complaintes des tueurs que je remoulais tout à l'heure pour l'édification du populaire. Mais ne croyez-vous pas que ces récits-là, bien qu'ils n'aient pas été mis en musique, présentent une égale beauté.
Tu m'ennuies avec ton moulin à parole. Dis-nous encore une aventure d'amour.
Voilà. Elles sont insatiables. Ah, tu en... Eh bien, en voilà de l'amour pour madame. En voilà. Paul Sedlak, ce matin-là, s'habilla plus soigneusement que d'habitude dans son petit logis de noisilles secs. Il s'y flottait. Il était très satisfait car il se mariait à 11 heures. Il se faisait la barbe pour la troisième fois quand sa concierge lui monta un pneu. Il déchira l'enveloppe et lut. « Mon cher Paul, j'ai réfléchi. Je crois que nous ne sommes décidément pas faits pour vivre ensemble. » Alors il acheva sa toilette, mit ses chaussures neuves, se regarda dans la glace, brossa ses verres, ouvrit le gaz et s'étendit sur son lit.
« Quand allons-nous nous marier ? Ton histoire me plaît !»
Voilà, elle lui plaît, mais elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles, monsieur, rêveuses, ingénues, sentimentales. Même celle-ci qui est une franche garce, c'est moi qui vous le dis. Non, mais j'ai compris depuis longtemps qu'il n'y avait rien à faire. Ah oui, ah, tu veux de l'amour? Ah, voilà, voilà de l'amour, ma belle. Constat du commissaire Leroy. Nous nous sommes rendus à 7h15 au domicile de la dame B, à Ivry, suspectée de vivre maritalement avec le sieur Z. Nous avons attendu 25 à 30 minutes derrière la porte. Nous nous sommes précipités dès que nous avons pu entrer. La radio jouait. Dans la chambre à coucher, nous avons noté la présence d'un lit de milieu à deux places, défait, avec un seul oreiller. Dans l'armoire, il y avait sur un rayon des sous-vêtements masculins et féminins mélangés. La preuve de la culpabilité n'a pu être faite, la dame B ayant déclaré que les sous-vêtements masculins appartenaient à son frère, qui les lui avait confiés pour les raccommoder.
C'est stupide, tu appelles ça de l'amour? Tu n'as jamais su ce que c'est.
Mais pourtant, il se déroule en France. 80 000 scènes identiques par an.
Tu m'agaces! Je connais une blonde.
Écoutez-la, monsieur. Ah, mon Dieu, monsieur, mon Dieu, ce qu'elles sont sottes. Voilà ce qu'elles aiment, là. Je connais une blonde. Mêlée de Fraxon, cette chanson, tu tombes mal, ma petite. Il a été tué après l'avoir écrite de deux balles de revolver dans la nuque au moment où il partait pour l'Alhambra. C'était le 29 décembre 1913, à 9h du soir. Il habitait 74 rue Lafayette. Tous les détails. Et l'assassin était le père de Fraxon, un homme époux. Il avait 83 ans. Il était jaloux de l'affection que son fils portait à cette blonde. Elle s'appelait Paulette, la blonde. Hein? Et alors? Tu ne joues plus, non? Tu ne... Ben alors, chante encore. Je connais une blonde. Non? Ah ben alors, continuons. Ah, tenez. La 15e chambre correctionnelle vient de juger le capitaine X, accusé par sa fille Solange d'avoir tenté d'abuser de son ami Domino, âgé de 16 ans. Solange X donnait d'elle son piano à sa camarade. Un jour, elle s'absenta Et quand elle revint à l'improviste, elle trouva la jeune pianiste toute confuse. Et l'interrogea Domino, qui finit par avouer que le capitaine avait essayé de la prendre de force. La défense de l'inculpé fut singulière. Il affirma que ce l'ange mentait, qu'elle lui avait tendu un traquenard et qu'elle obéissait à sa mère divorcée. Le divorce avait été prononcé quelques années plus tôt au tort de la femme. Ce n'est qu'à l'audience que Domino reconnut avoir menti. Il avait simplement répété les accusations dictées par ce l'ange. La jeune fille, dévoyée par sa mère, avait trouvé ce moyen pour se libérer de la tutelle du père, à la garde duquel elle était confiée.
Mais c'est un chapitre des enfants terribles de Cocteau.
Oh, je ne sais pas, monsieur. Je trouve simplement que c'est une drôle d'histoire. Une violette nausière en herbe, cette Angélique Solange.
À chaque question, Violette répond.
Oui, c'est moi la seule coupable. Je vous jure, monsieur le président, personne autre n'est responsable de l'empoisonnement de mes parents.
Ah oui, ah ben l'ami de Violette s'était fait légionnaire, vous vous souvenez? Mmh. Eh oui, c'est la règle. Oh, mais j'en connais une meilleure dans le dossier Légion. Celui-là, c'était un ignoble individu. Il y a des ignobles individus comme il y a des économistes distingués et des magistrats intègres. C'était un adjudant retraité. Il avait 1m90, 4 citations, 2 blessures, diverses balafres et l'estime de ses anciens chefs. Il était veuf et père de 5 enfants. On le surprit un soir au Luxembourg. Dans une tenue copiée sur celle des statues voisines, on l'emmena au dépôt.
On ne devrait pas avoir pitié de ce type-là.
Mais vous qui êtes instruit, monsieur, pouvez-vous m'expliquer pourquoi les femmes de mauvaise vie sont unanimes à réprouver ces actes?
Non.
Ah, c'est un fait pourtant. Enfin bref, cet adjudant-là fut acquitté. Acquitté, parfaitement. Il avait contracté aux colonies, au cours de 20 ans de service, une fièvre dont la conséquence la plus maligne était une formidable augmentation de son potentiel naturel. Ce malheureux n'avait que sa retraite pour faire vivre ses enfants et subvenir à ses besoins, dont la clandestinité a fait monter les tarifs. De là sa folie. Le dernier argument qui emporta l'indulgence des magistrats intègres fut le fait qu'il avait envoyé son adhésion aux gueules cassées le jour même de sa mise à la retraite. Sensibilité morbide, impuissance naturelle à regarder la vie en face. La vie, monsieur, la chance, le hasard, le destin, la providence. Comme vous voudrez. Ah, tenez, tenez. Monsieur Henri Le Sage, cantonnier à Val-Saint-Germain, 62 ans, venait d'être mis à la retraite. Un matin, il se leva à 5 heures. « Mais pourquoi te lèves-tu si tôt ?» lui demanda sa femme. « Oh ben, je vais planter des pommes de terre. » Il prit dans un tiroir un pistolet rouillé et gagna le lavoir au bord de la rivière. Il s'agenouilla sur la pierre et tira une balle dans la tête. Son corps bascula dans le courant et il avait bien calculé son coup. Il ne pouvait pas en réchapper.
Il en réchappa pourtant.
Ah non, monsieur. Non, non. Oh non, mais ce n'est pas là le nœud du drame. Ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que 50 ans plus tôt, sa grand-mère s'était suicidée au même endroit. Victor Le Sage, père du cantonnier, s'était également suicidé en 1918 parce qu'il avait tué le chien d'une voisine et parce que celle-ci le menaçait de gendarmes. En 1930, sa mère s'était pendue. En 1935, Victorine Le Sage, sœur du cantonnier, s'était jetée dans la même rivière par peur de l'orage. En 1944, enfin, le frère d'Henri, Émile, s'était suicidé alors qu'il venait de réchapper d'une pleurésie. Voilà, Rosa. Hein? Mais que pensez-vous du suicide, monsieur?
Rien.
Moi non plus. C'est très compliqué, ça me dépasse. Mais ça m'intéresse. Je dois dire que le suicide m'intéresse profondément.
Tais-toi, tu deviens fou! Toi, si on t'écoutait, à quoi ça ressemble, tes faits divers? Ça ne veut rien dire. Laisse-moi chanter.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Ah mon Dieu, cette femme, excusez-la, monsieur, excusez-la, elle ne comprend pas. Non, elle ne comprendra jamais. Mais comment voulez-vous qu'elle comprenne ceci? Tenez, par exemple, à Terracine, près de Rome, un cinéma donnait un film sur le tremblement de terre de San Francisco. Un morceau de plâtre se détacha du plafond. Les spectateurs furent pris de panique et se ruèrent vers la sortie. Il y eut 3 morts et 20 blessés. Je me demande quelle moralité on peut bien tirer de ça. Oh, ils ne sont pas toutes tristes. Il y en a de toutes les couleurs. C'est ce qui fait leur charme. Tenez, celle-là, par exemple. Monsieur Roger Chalon, pompier, demeurant à Montmorency, travaillait sur le toit d'une maison de 5 étages. Il perdit l'équilibre. Mais il y avait tant d'obstacles entre le toit et la courette, balcon, corde à linge, verrière, qu'il eut le temps de les utiliser pour ralentir sa chute. Il gisait cependant sur le sol, inanimé. Ses camarades alertèrent sa femme par téléphone. Quand ils revinrent de la cabine, le pompier était debout et se massait énergiquement. Apprenant la démarche de ses compagnons, il courut à la gare, sauta en marche dans le premier train et arriva chez lui juste au moment où sa femme, ravagée par l'angoisse, allait partir. Elle s'évanouit de saisissement. C'est lui qui la conduisit à l'hôpital. Oh, et celui-ci, monsieur? Ah, des faits divers, monsieur, j'en ai, mais pour toute la vie, Tenez, dans les Charentes, au hameau de la Brigère, une certaine Catherine R., 28 ans, fut condamnée à mort par les médecins. Elle décida de ne pas attendre l'échéance et se jeta sous un train. Or, le même jour, à la même heure, son mari se mutilait en se frappant la tête un coup de hachette. Il en réchappa pour apprendre aux gendarmes qu'il ignorait tout la résolution de son épouse. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, mais j'en ai d'autres, attendez.
Je commençais à être là. L'homme repartait, fouillait avidement dans son bric-à-brac, tirant de ses dossiers des drames incomblés, saugrenus, des poèmes interrompus, des romans sans queue ni cou. Ça devait être pour lui une sorte de stupéfiant. Je crois comprendre qu'il trouvait dans l'absurdité de la vie une justification à sa propre existence. Il me fit alors penser à une jeune fille que j'ai connue. Une jeune fille qui étudiait dans une école normale pour devenir institutrice et qui buvait en cachette de l'eau de Cologne. Il avait le même regard vif.
Tenez, en voilà encore toute une collection. Tenez, écoutez-moi, monsieur. Écoutez-moi. Lorsque le petit Lindbergh fut assassiné en 1932, la découverte du cadavre souleva une émotion comparable à celle que provoquèrent, du temps de leur splendeur, des personnalités aussi fortes que Jacques l'Éventreur, Hartmann, le boucher de Hanovre et Landru, monsieur, Landru. Voici ce qui suivit d'après le Chicago Tribune. Profitant des premiers beaux jours de printemps, une foule évaluée à 40 000 personnes se rua vers l'endroit où un chauffeur nègre avait trouvé le bébé Lindbergh. Un service d'ordre fut improvisé par la troupe pour protéger la maison du colonel. Il fallut organiser un parc d'auto. Il y eut 500 voitures dès le premier jour. Des marchands de cacahuètes et de limonades vendaient leurs produits aux spectateurs, déjà installés dans l'herbe pour pique-niquer. Tenez, monsieur, tenez, lisez ça vous-même. Pendant ce temps-là, je vais bourrer ma pipe.
C'est le docteur Locard, le plus grand policier vivant, qui rapporte cette anecdote. Un individu accusé de meurtre risquait sa tête. Le directeur de l'Institut de police scientifique de Lyon, nommé expert, était certain de sa culpabilité, mais se demandait avec angoisse comment il allait la rendre évidente à un jury composé d'honnêtes provinciaux mal informés du pouvoir de la science. Il était indispensable de faire intervenir des notions complexes de coroscopie et de calcul des probabilités. Sans grand espoir, le docteur Locard s'y employa. À sa vive surprise, le jury revint avec un verdict affirmatif. Le raisonnement du savant avait été compris. Il sortait du palais d'un pas alerte quand un homme s'approcha de lui tapa sur l'épaule et lui dit, avec un accent de terroir bien frappé,
« Alors, docteur, voyez bien qu'on n'est pas plus bête à la campagne qu'à la ville. » C'était le président du jury.
Cocasse, instructif, humoristique. Rosa, ma belle, chante-nous quelque chose.
Alors viendront à terre les matelots, plus de 100, ils marqueront d'une croix de sang. chaque maison, chaque porte, et c'est devant moi qu'on apporte, enchaîné, implorant, mutilé, et saigneux, beau pareil, beau pareil, beau messieurs. Et le navire de haut bord, loin de la ville où tout sera mort, m'emportera vers la vie.
Cette chanson est belle, monsieur. Elle ressemble à la vie, tout au moins à ce que j'en connais. La chanson et la vie, monsieur, sont également saugrenues, et je ne sais laquelle a copié l'autre. Écoutez. Écoutez plutôt, 5 commerçants de Poitiers s'étaient associés pour acheter un billet de la Loterie Nationale. 8 jours avant le tirage, l'un d'eux mourut. Monsieur Mador, d'une embolie. Monsieur Mador, d'une embolie. Oui, là, c'est un mot. Ah ouais, ouais, bon. Oui. Les 4 survivants assistèrent aux obsèques. Mais leur deuil devait se changer à la sortie du cimetière en un discret enthousiasme. Ils avaient gagné 1 million, 1 million d'avant-guerre. L'enthousiasme disparut bientôt cependant, car s'ils avaient gagné le million, ils avaient perdu le billet.
Mais c'est un scénario de René Clair.
Je ne sais pas, monsieur. Ce que le journal m'apprend seulement, c'est qu'après avoir bouleversé les 5 demeures, il vint une idée à l'un des gagnants. Et l'on retrouva le billet. Je vous donne mon orgue de barbarie si vous devinez.
Excusez-moi, ça, je n'ai aucune imagination.
En troublant le sommeil de Monsieur Mador, en l'exhumant. Le coupon était soigneusement plié en 4 dans la poche de son gilet. Avez-vous remarqué que Poitiers est une capitale de faits divers, une ville sainte de la superstition? Oh, cela s'accorde assez bien avec le caractère secret de cette cité apparemment paisible. Il y a la célèbre séquestrée de Poitiers avant l'autre guerre. Et aussi cette petite nouvelle que vous avez pu lire dans les journaux.
Je ne lis jamais les journaux. Mais je crois comprendre d'ailleurs que j'ai tort.
Oui, monsieur, oui, vous avez tort. Elle s'appelait Marie Dorkeld et exerçait la profession de sorcière. Un jour, une jeune femme vint la voir. Marie Dorkeld lui annonça que son enfant courait de grands risques. La dame avait en effet une fille malade. Pour la protéger, Marie demanda 800 francs. Il chercha un œuf, prononça sur lui une incantation, brisa la coquille et en tira une bestiole immonde. La visiteuse recula. « Cette bête est la cause de vos malheurs, annonça la sorcière. Je vais la dessécher, mais ce sera long et cher. » En effet, cela coûta 150 000 francs à la mère naïve. Elle finit par porter plainte et en arrêta la sorcière pour escroquerie. Et accessoirement, marché noir des œufs.
Je lançai un coup d'œil inquiet vers mon interlocuteur. Il avait l'air satisfait des mystificateurs. Il faisait froid dans sa boutique et des fourmis me picotaient les jambes. Je me levai.
Vous partez déjà ? Il ne faut pas partir.
Il se fait tard.
Si vous voulez, monsieur, mais vous reviendrez peut-être.
Oui, revenez.
Écoutez, laissez-moi. Non, laissez-moi vous en compter encore une. Rien que là, une seule. Tenez, de Poitiers aussi, justement. Roger le Grand était plongeur. Un jour, il tua sa femme, sa belle-mère et ses 3 enfants et alla se constituer prisonnier. Le commissaire lui demanda : pourquoi avez-vous tué toute votre famille, Roger ? C'est le lapin qui me l'a ordonné, répondit l'assassin. Au cours de la perquisition qui suivit, on découvrit le lapin. C'était un honnête lapin de chou roux, âgé de 3 ans, qui considéra les policiers d'un œil rond. Roger le Grand a été interné. Je ne sais pas ce qu'est devenu le lapin.
Je ne respirais plus très librement dans cette boutique aux odeurs de naphtaline et de poussière. Et m'approchant de la porte et souhaitant le bonsoir, je frôlai en passant la fille au visage blanc et elle sourit. Je n'ai pas oublié son sourire. Je courus presque jusqu'à Barbès. Je me souvenais maintenant de tous les collectionneurs que j'avais rencontrés. Aucun n'arrivait à la cheville de celui-ci. Il m'avait fait connaître la source des tragédies pour concierges qui alimentent les petites écluses de plomb des journaux. Oui, il suffisait d'un orgue de barbarie, de quelques chansons de poètes, de quelques complaintes d'assassins, de quelques coupures oubliées pour mettre en scène la fantasmagorie du crime, de l'accident et du hasard. Ce soir-là, Château Rouge, dans une boutique de prog brocante, un vagabond m'avait joué Hamlet et Macbeth à sa manière, à bureau fermé. Je rentrais chez moi et je m'endormis difficilement. Le lendemain, je me levais tard. Un air bourdonnait dans ma tête. La voix de la fille Rosa murmurait encore en moi. Pourquoi m'avait-elle souri ?
Les passants qui passent les désignent du doigt.
Je sortis et passant devant un kiosque, j'achetai une des premières éditions d'un journal du soir. À la troisième page, dernière heure, je trouvais cet entrefilet. Crime singulier à Château Rouge. Cette nuit, vers 3 heures, l'agent Christian Versel, effectuant une ronde rue des Poissonniers, a eu l'attention attirée par une lumière insolite dans la boutique d'un brocanteur. Il est entré et a découvert parmi les objets hétéroclites qui embarrassaient les lieux une femme et un homme inanimés. La femme était entièrement nue. Sur sa cuisse, on avait écrit au rouge à lèvres cette inscription « Dieu, hasard, moi ». Un haut de forme avait roulé près de l'homme qui s'était fait justice. Sur un orgue de barbarie parfaitement astiqué, un singe grelottait. Le sol était jonché de coupures de journaux. Le commissaire de Château Rouge a conclu à un crime de fou.
Nous vous avons présenté Germaine Montero, Pierre Larquet et Michel Vitold dans une émission de Armand Lanoux. Prix populiste 1948. Le collectionneur de faits divers. À l'accordéon, Germaine Mordant. Prise de son, Gaston Guénèse et Noël Barbet. Bruitage, Pierre Léonin. Réalisation, Henri Soubéran.
Cette fiction a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 3 janvier 1949. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».
Demandez France ce soir, demandez le Parisien libéré, demandez le nouveau détective, demandez les journaux, meurtre sanglant à Saint-Maur des fossés. Edgar Garçon dégraisseur, super chevron sur sa sœur, full of love et plein d'ardeur. Comme ils niquaient tous les dos au pressing, leur look était tout too much exciting, comme dans les magazines. Fait divers, du blood et du mystère, crimes épouvantables, murders abominables. À vous glacer les os qu'on lit dans les journaux. Sous le perfecto bat un cœur, il prit l'inceste en horreur et la haine de sa sœur. Sister Esther et son zombie minable, Luke et Redskin avec l'indéfrisable, l'inceste et Cersei c'est pas stable. Fait divers, du blood et du mystère. Crimes épouvantables, meurtres abominables, à vous glacer les os qu'on lit dans les journaux. Dégraissage et sa sister, et ses taches de rousseur, tout ça lui porta au cœur. En exciting, ses humeurs assassines, à 12 o'clock, il killa sa frangine et l'a mis dans la machine. Sale vers un louche lavomatique au numéro 16 de la rue Saint-Hilaire. Tous les détails dans les journaux. Demandez France ce soir, demandez le